Meshem Hashem Nasev Nasliar Bezrat Hashem. Regardez, écoutez bien cette parole magnifique que j'ai entendue de Rav Mordechai Miller, le directeur du séminaire de Getzed et le fondateur du séminaire de Getzed, un des plus prestigieux séminaires des Bnot Israël. Il amène ici dans la parashat à Shavua. Moi je vous assure, quand j'ai entendu ces shélot et j'ai vu les réponses, c'est pas seulement quelque chose qui est extraordinaire et qui est clair et qui illumine en soi. Déjà les questions et les réponses elles sont merveilleuses, mais la construction qui peut découler de ce chidouch là, elle peut vraiment changer notre vie. Alors Bezrat Hashem qu'on soit zouché de se renforcer dans ça. Regardez ce qu'il est, il dit que on sait qu'après que Yaakov Avinu il s'est investi pendant 14 ans qu'il a étudié la Torah. On sait qu'il fallait qu'il passe par ses 14 ans pour se charger de cette lumière qui allait lui permettre de surmonter tous les exils qu'il allait passer. C'est marqué qu'il est arrivé, il s'est confronté à Lavan. Lavan c'était Avi Avot Atuma, le prince et le char de l'impureté. C'était l'homme le plus impur du monde, c'était un des plus impurs que toute la terre n'ait jamais porté. Et pour pouvoir survivre et surmonter les difficultés auxquelles il allait être confronté, il fallait impérativement qu'il se sanctifie pendant 14 années et qu'il monte donc dans cette échelle, comme on a dit, c'est marqué, il a fait un rêve et l'échelle, elle avait ses pieds posés vers le sol et la tête, elle a tenu le ciel. Et les anges, ils montaient et ils descendaient. On a expliqué au nom du sabbat de Kilim, c'est-à-dire quoi? Ils montent et ils descendent. Normalement, ils auraient dû descendre d'abord, les anges sont dans le ciel. Non, un homme, quand il veut réussir à surmonter les épreuves du monde dans lequel il vit, il doit d'abord se sanctifier, étudier la Torah. C'est pour ça qu'avant d'aller se marier, avant de rentrer, il a commencé à étudier 14 années. Une fois qu'il était blindé, il est parti. Au bout du moment où il allait étudier la Torah, il s'est marié avec ses femmes. Et là-bas, on sait qu'il a été roulé par Lavan à plusieurs reprises. Il lui a changé 100 fois son salaire. Il lui a échangé ses femmes. Il a fait toutes sortes de tarboulottes, des choses qui étaient très 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 difficiles à vivre. Jusqu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il voit que Yaakov Avinu, il a fait ce qu'il avait à faire sous l'ordre de sa mère, puisque sa mère lui avait dit, tu vas aller là-bas à Haran, tu vas te marier avec les filles de mon frère, de Lavan. Donc il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et au moment où il termine de faire tout ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui et il lui dit, Yaakov, Yaakov, il lui dit, Ineni, me voici. Il lui dit, sache mon fils que tu dois quitter cet endroit-là parce que c'est une terre qui est impure et tu es avec cet homme impur. Ça y est, il est venu pour toi, le temps de se séparer de cet homme et de continuer ta vie dans la Gdusha et dans la Tahara. Donc il a compris qu'Akadosh Baruch Hu c'était venu le temps pour lui de se séparer. À ce moment-là, Yaakov Avinu, il va appeler ses femmes, Rachel et Léa. Et malgré le fait qu'il lui avait changé 100 fois son salaire, le Rav Volbe, il explique d'ici qu'il lui a dit, il les a appelés dans le champ. Pourquoi? Il aurait pu s'interrompre et aller là-bas pour leur parler. À Kadosh Baruch Hu, il lui dit qu'il doit quitter cet endroit, il doit quitter l'endroit dans lequel il est. Il dit non, il ne voulait pas voler ne serait-ce que quelques secondes de travail, c'est pour ça qu'il fait venir ses femmes, il envoie un chagrin pour faire venir ses femmes à lui. Quand bien même lui, Lavan, c'est le prince de l'impureté et qu'il a roulé de tous les côtés, Yaakov Avinu, il est resté, comme il a dit à son frère après quand il va le retrouver, et ça, il lui dit, « Im Lavan garti tariag mitvot shamarti, j'ai vécu avec Lavan, mais sache que les 613 mitvot, je les ai accomplis et je suis resté dans mon intégrité la plus profonde. » Donc il fait venir ses femmes, et à ce moment-là, il va dire à des paroles à ses femmes qui sont incroyables. Des versets qui sont a priori qui sont superflus. Pourquoi ils nous disent tous ces versets? Regardez ce qu'il va dire. Ben alors nous on aurait été à la place de Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait dit, bon, écoute, Akadosh Baruch Hu, il est venu en rêve à moi, il m'a envoyé des anges, il est venu me parler dans la nuit, et il m'a dit qu'on devait quitter le monde. Donc préparez vos affaires, on va s'enfuir, on va se sauver de chez Lavan. Yaakov Avinu, il ne dit pas du tout ça. Il dit des paroles qui sont assez invraisemblables a priori. Va terrer Rachel. Donc c'est marqué comme ça. Il a vu que... ויאמר השם אל יעקב, ידיע הקדוש ברוך הוא יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ומולדתך, ורטורן ור לטר דתי פר ולנדרו דתה נסנס, ויהי עמך ושרה תקוטה. הקדוש ברוך הוא יגרנטי כי שכה וכלי, כי ולא פרוטג'ה. וישלח יעקב, אילנבו יעקב אפלס נונק ספם, או פורלי רמנה לבא דלנדרו דלנקל יגרדל לזנימו. ויאמר להם, il dit, je vois la face de votre frère qui n'est pas comme hier et avant-hier avec moi. Il nous regarde mal, il nous regarde de travers, il a l'air d'être énervé contre nous. Et alors après il commence à leur dire, et moi Dieu m'est témoin que je me suis comporté avec lui avec une intégrité exemplaire, j'étais honnête avec lui, j'ai travaillé, et votre père il m'a changé 100 fois le salaire. Et alors après il lui explique tout ce qui s'est passé avec les... Une fois il lui a dit qu'il avait les bêtes qui étaient achetées, après il lui a volé les bêtes achetées, après il a repris les bêtes achetées, il lui explique là-bas toute l'histoire. Et à Kadosh Baruch Hu, il nous a sauvé notre Parnassa, malgré le fait qu'il a voulu nous rouler à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas laissé. Et après, il lui dit, Vayomer Elai. Et après, donc après, il en vient à l'essentiel quand même. Toda Rabba, merci beaucoup, Yaakov Avinu, de venir quand même à l'essentiel de tout ce que tu vas t'enfuir pour cette raison. Vayomer Elai, Malach Elokim Bachalom Yaakov, Vayomer Inni. Donc l'ange d'Hachem m'a dit dans le rêve, il m'a appelé. Je lui dis, oui, je suis là. Il lui dit, Sana Enecha. Il lui dit, voilà, regarde tout le troupeau et tout ça. Et après, il lui dit, bon, maintenant tu dois partir. Je suis l'Éternel, ton Dieu, le Dieu de Bethel, auquel tu as fait une promesse que tu allais construire là-bas. Tu as fait le néder de construire un Beth-Amikdash et un temple et tout ça, et de faire des sacrifices. Il lui dit, maintenant, Koum tse min haaretz hazot, lève-toi et enfuis-toi de cet endroit-là. Veshuv al eretz molatecha, et retourne dans l'endroit dans lequel tu es né. Et regardez ce que donc il parle à ses femmes. Donc ses femmes, qu'est-ce qu'elles vont lui répondre? Elle dit, bon, ben écoute, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, il t'a dit qu'on s'en aille, alors on n'a qu'à partir. C'est sûr, si Akadosh Baruch Hu, il nous dit de partir de cet endroit, il n'y a pas de question. Regardez ce qu'elle lui répond, c'est encore plus surprenant, c'est quelque chose d'invraisemblable. Vatan Rachel Velea, Vatomar Nalo, Aodlanu Chelek Vinachalat Bevet Avinu. Est-ce qu'on a encore une part dans l'héritage de notre père? C'est quelque chose d'incroyable. Et qu'est-ce que tu parles d'héritage? Qu'est-ce que t'es intéressé? Et quoi, si jamais t'avais une part dans l'héritage de ton père, tu ne serais pas parti? Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? Alors nos chiyot nechavnu lo ki mecharanu vayochal gam achol et kaspenu. Il nous a considérés comme des étrangères. Au lieu de nous donner en mariage et de nous donner une dot, il nous a vendus à toi. Il a fait que tu as travaillé 7 ans et 7 ans, chacun pour pouvoir te marier avec l'une et avec l'autre. Il a travaillé pendant 14 ans. Au lieu de payer Yaakov Avinu pour qu'il se marie et de lui donner une dot, il nous a vendus comme des étrangères. Et il nous a mangé tout notre argent. Et après, elle continue à lui parler, tout ça. Il a voulu nous prendre de l'argent de nos enfants, et Akadosh Baruch Hu, il nous a sauvés. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Baruch Hashem, quand même, ça nous rassure. Kol asher amar Elokim elecha aseh. Et maintenant, en plus, puisque Akadosh Baruch Hu, en plus, il t'a dit de partir, bon, ben, on peut quand même partir, puisque Hashem Yitbarach, il nous a ordonné de t'en aller. Bon, fais comme Akadosh Baruch Hu, il t'a dit. C'est quelque chose d'invraisemblable. Voilà la question qu'il demande au nom de Rav Dessler. Et on sait très bien que les tzadikim, les gdoshim et les théorim, toute leur vie, elle était fondée sur le tzivou Hashem, sur le respect de l'ordonnancement d'Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il leur disait de faire, ils le faisaient, ils s'annulaient complètement, même quand ils ne comprenaient pas. Voilà, Avraham Avinu, il n'a pas compris qu'il devait sacrifier son fils, mais il a quand même été capable. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, Ataya Dati Kiyere Elohim, je sais maintenant que tu crains Akadosh Baruch Hu, parce que tu n'as pas renoncé à ton fils. Et les commentateurs, ils demandent, mais quoi? Et avant ça, on ne savait pas qu'Akadosh Baruch Hu l'avait craint du ciel. Il dit, même quand ils ne comprenaient pas, ils faisaient. Ici, qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? Voilà, puisque ça nous arrange, alors on va faire la chose. Et bon, ça veut dire que si jamais ça ne nous avait pas arrangé, on n'aurait pas fait la chose. C'est quelque chose d'invraisemblable. Normalement, les tzadikim, leur grandeur, c'est d'accomplir les choses de façon aveugle, sans chercher logiquement à justifier si oui ou non c'est dans notre intérêt personnel. Comme ça, ils demandent, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour répondre à ces questions, il faut y rapporter plusieurs histoires qu'il y a dans la Torah, Kedusha. On nous cite plusieurs affaires qui se sont passées et qui vont nous montrer comment ils se sont comportés les ancêtres et les tzadikim, et qu'en fait ils ont pris exemple sur Yaakov Avinu et sur ses femmes, comment ils se sont comportés face à ces épreuves, comment ils se sont comportés, dans quel état d'esprit ils étaient. On sait que Yaakov Avinu, quand il arrive et qu'il fait ce rêve de l'échelle, qu'il s'enfuit là-bas de Vayetzi Yaakov Mibersheva Vayelech Harana, il va dormir dans un endroit, Vayev Gavam Akomazeh. Et c'est marqué qu'il a mis une gouttière de pierre autour de sa tête. Il dit, pourquoi il a mis cette gouttière de pierre? Rachid explique, pour le protéger et le préserver des bêtes féroces. Il y avait des bêtes qui étaient dans le désert. Il s'est mis une petite gouttière de pierre là-bas à l'ancienne. Il s'est dit, voilà, s'il y a mis un grand lion qui va passer, sûrement qu'il ne va pas me voir. À Bataille, entre nous, ces pierres-là, elles ne servent à rien du tout. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec ces pierres? Qu'est-ce qu'il est en train de mettre cette gouttière autour de sa tête? Yaakov Avinu, il ne savait pas que c'est Akadosh Baruch Hu, le maître de l'univers, avec le bitachon et la Emouna qu'il avait. Yaakov Avinu, il ne savait pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui prenait. Qu'est-ce qu'il vient mettre une gouttière de pierre autour de sa tête? Ça, c'est la première question. Deuxième chose, on voit dans le Navi, C'est marqué que Shmuel, il était souvent reçu chez une femme qui était une shunamite. Et cette femme-là, pour lui donner de la reconnaissance, cette femme-là, pour l'accueillir et tout ça, elle lui avait fait une mezzanine, là-bas où chaque fois, Shmuel, il pouvait trouver le confort, et il pouvait venir là-bas, il se mettait là-bas, et il était souvent dans cet endroit. Et cette femme n'avait pas d'enfant. Pour reconnaître tous les efforts qu'il a fait, elle lui a demandé de prier. Et à ce moment-là, elle a fait des prières. Shmuel, il a fait des tfilotes et il a fait vivre un enfant. L'enfant, il est né. Et quelques temps plus tard, on connaît l'histoire, l'enfant, il est décédé. Et au moment où il est décédé, donc la Shunamite, elle vient vers Shmuel et lui dit quoi, tu m'as fait venir un enfant dans ce monde-là pour l'enlever à quelques instants plus tard, fais-le revivre. Shmuel, c'était un avis, c'était un très très grand sadique, ils avaient le roi Hakodesh, et on dit, tous les rabbanim qui sont cités dans la Gemara, les Tanaïm et les Amoraïm qui sont cités, ils peuvent ressusciter les morts. Alors à la Khan Kamakama, les prophètes, qu'ils avaient des pouvoirs surnaturels. Shmuel, qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il fait sortir tous les gens de la salle dans laquelle il y avait l'enfant. Il met ses mains contre les mains de l'enfant, il met ses yeux contre ses yeux, sa bouche contre sa bouche, et il lui fait une réanimation artificielle, et il fait revivre l'enfant. Quelque chose d'assez invraisemblable, quoi. Parce qu'il avait besoin de faire là-bas ce bouche à bouche pour faire revivre l'enfant. Ça nous échappe à première vue, on ne comprend pas très bien ce qu'il a fait, quoi. Il s'est pris pour un médecin, un réanimateur, on ne comprend pas très bien ce qu'il en est. Troisième histoire que la Torah, elle rapporte, Rav Mordechai Miller rapporte un troisième exemple. On nous dit que Moshe Rabbeinu, toute sa vie, il a voulu voir Eretz Israël. Son rêve, c'était d'entrer, va être Hanan El Hashem, va être Aïl est mort. Il a supplié à Kadosh Baruch Hu, 515 ou 517 filotes, il a supplié à Hashem Yitzbarach de toutes ses forces. Malheureusement, il n'a pas eu le mérite de rentrer là-bas à l'intérieur de Eretz Israël. Et à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais quand même te faire un cadeau. Parce que ça a été décrété que tu ne dois pas rentrer en Eretz Israël, mais je vais te faire un cadeau. Quel était le cadeau qu'il a reçu? Il l'a fait montrer sur le Har Nevo, sur le mont Nevo, et il lui a fait voir Eretz Israël à 360 degrés. Le Ramban sur place, il dit, Péri, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il va monter là-bas? Est-ce que ça va changer quelque chose qui va monter là-bas? Est-ce qu'on peut voir tout un pays à 360 degrés si jamais on monte sur une montagne quelques mètres? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Pourquoi il a fait monter là-bas? C'était un miracle aussi. De la même façon que c'est un miracle de voir l'Eretz Israël d'en bas du mont, de la même façon de monter sur le mont, c'est un grand miracle. La réponse à ces questions, Moraï Verabotaï, c'est Nifla Meod. Je vous assure que c'est Nifla. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça me fait revivre complètement. C'est merveilleux. Yaakov Avinu, quand il vient mettre cette gouttière autour de sa tête, il sait très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui le garde et qui le protège. Il sait très bien que cette gouttière, elle va servir à rien. Mais Yaakov Avinu, Moraï Verabotaï, il est pudique. Il fait ce qui est marqué dans le Pasuk, dans Amos. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il demande de toi, aime la charité, pratique la justice, et marche humblement dans les voies d'Akadosh Baruch Hu, marche avec discrétion. Le Rada qui ramène, que de quoi on parle quand on nous dit de marcher discrètement avec Akadosh Baruch Hu, c'est de quelqu'un qui va aider une femme orpheline ou une veuve à se remarier, et quelqu'un qui va accompagner un homme à sa dernière demeure avec beaucoup de discrétion. Normalement, ces choses-là, ce n'est pas des choses qui se font avec discrétion. Et dit le Radak, si déjà, dans les choses qui doivent normalement se faire avec, de façon ostensible, de façon au vu et au su de tous, on doit se cacher. Alors, à plus forte raison, avec les choses que les gens, ils ont l'habitude, normalement, que c'est des choses qu'il faut encore plus se cacher, combien il faut encore plus se cacher? Ce que Yaakov Avinu, il vient nous enseigner ici, c'est un derrière pour la vie qui est extraordinaire. Il nous dit, vous savez, quel est le chemin et la finalité? Quelle est la grandeur d'un homme? C'est de faire en sorte que on va cacher et voiler le miracle. On va montrer qu'on n'est pas au degré de recevoir un miracle à Kadosh Baruch Hu en plein milieu de la jungle et du désert où il y a des chacos là-bas, des chacals blancs qui courent de tous les côtés en furie. Et là-bas, il y avait des chèvres. Ils n'étaient pas là-bas parce qu'ils avaient trop soif. Mais il y avait là-bas des lions, il y avait des tigres, il y avait toutes sortes d'animaux, des serpents. Ils auraient pu l'atteindre. Il dit, moi je suis au niveau, je me mets là-bas, au milieu du désert, personne ne me touche. Non, je vais faire en sorte de mettre une gouttière autour de ma tête pour que les gens y fassent dépendre ma survie et ma sécurité, pas lois du miracle, du fait que c'est normal, c'est les lois de la nature, puisque j'ai mis cette gouttière autour de ma tête, et ben on m'a protégé. Yaakov Avinu Moray Veravota, il savait très bien que c'est pas cette gouttière qui le protège et qui le préserve. Il sait très bien que cette gouttière, elle sert juste à voiler le fait que moi je suis pas apte à recevoir un miracle d'Akadosh Baruch Hu. C'est une humilité, une modestie et une pudeur par rapport à la grandeur que Yaakov Avinu il avait atteint. Par rapport au fait qu'on sent pas qu'on est raoui de recevoir des miracles d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on vient et qu'on cache notre Irat Shamaim, qu'on cache les choses qui sont les plus précieuses et les plus grandes dans notre vie. C'est extraordinaire, Rabotai. De la même façon, Moshe Rabbeinu, Ishanav Mikol Adam, le plus grand des prophètes et le plus humble de tous les hommes. Pourquoi il vient monter au mont Har Nevo? Pour ne pas rentrer dans le Nisayon, de se dire, regarde, je suis au niveau que Kadosh Baruch Hu, il a fait un très grand miracle pour moi, il m'a montré Israël à 360 degrés. Devant tout le monde, il aurait pu peut-être s'enorgueillir ou avoir une étincelle d'orgueil, une once d'orgueil à l'intérieur de lui, mais Kadosh Baruch Hu, il le protège et il le préserve de ça. Les gens, ils vont dire, ah ben, Moshe Rabbeinu, bon, mais il n'est pas si grand que ça. Moshe Rabbeinu, il est monté sur le mont et il a vu Eretz Israël. Moshe Rabbeinu essaye de diminuer au maximum l'épreuve de se mettre justement dans cette situation dans laquelle il peut sentir qu'il est apte à voir des miracles et des dévoilements d'Akadosh Baruch Hu qui sont supranaturels. Donc il va essayer de maquiller au maximum les miracles d'Akadosh Baruch Hu derrière la nature. C'est quelque chose qui est extraordinaire à Botaï. Et sur ça, on comprend aussi ce que Shmuel HaNavi il a fait, mais c'est encore plus difficile. Parce que Shmuel HaNavi, Yaakov Avinu et Moshe Rabbeinu, ils étaient devant des gens. Il y avait des gens qui pouvaient les voir, mais Shmuel il est seul, il fait sortir tout le monde. Il fait sortir tout le monde de la salle. Alors qu'est-ce qu'il en a à faire maintenant que plus personne ne le voit? Il va s'enorgueillir devant les gens. Et il va se dire, ouais, moi je suis capable de faire des miracles, je suis capable de ressusciter les gens, je suis capable de faire des choses qui sont extraordinaires. Qu'est-ce qu'il a peur? De quoi il a peur? Bon, Ibrota, il a peur par rapport à lui-même. De sentir qu'il est capable de faire des miracles. De sentir qu'il est au niveau de faire des miracles et que cet orgueil va rentrer à l'intérieur de lui-même. Et que ça va détruire toute la pnimiut et l'intériorité qu'il a travaillé pour atteindre cette doucha, cette tara, cette grandeur qui vient de la anava, qui vient de l'humilité, parce que c'est cette humilité qui fait des gens qui sont grands. Ce qu'ils sont, c'est leur grandeur, c'est par l'humilité qu'ils l'ont construit. Il ne veut pas se mettre dans un nisayon. C'est la raison pour laquelle il se dit, moi je ne suis pas capable de ressusciter des gens. J'ai fait ce que n'importe quel médecin il aurait fait. J'ai posé mes mains sur les mains, j'ai posé mes yeux sur les yeux, j'ai posé ma bouche sur la bouche et j'ai ressuscité cet enfant. Comme n'importe quel médecin de tout hôpital qui se respecte aurait pu le faire. Il n'est pas en train de se cacher, de cacher sa Yirat Shamayim et sa crainte du ciel et sa Kdusha et sa Tara et sa grandeur spirituelle devant les gens. Devant lui-même, il ne se met pas dans le Nisayon de se dire, voilà, je suis Raoui et je suis capable. C'est quelque chose de nif là. Et alors on comprend maintenant la question qu'on a demandé sur Yaakov Avinu et sur ses femmes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous raconter? Et oui, Akadosh Baruch Hu, il nous regarde avec un œil, pas comme le premier jour. Et il nous a roulé à plusieurs reprises. Et en plus, il nous regarde mal la vanne. Et bon, plus qu'Akadosh Baruch Hu. Je vous dis, Rabotai, il y a 14 versets qui sont superflus dans la Torah. On aurait pu rayer 14 versets. On sait que chaque mot, il a un poids. Chaque petite virgule de la Torah, chaque petit point, chaque petite nekuda, chaque tache d'encre, elle est pesée. On sait combien il faut faire attention. 14 versets, ils ont rapporté. Pourquoi? Pour nous dire ce Yesod. Yaakov Avinu, il dit tout ça. Et après, il dit, ouais, plus qu'Akadosh Baruch Hu, en plus, il a dit. Rabotai, regardez la grandeur de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il ne voulait pas sentir. Et peut-être, il y a tarté machma, on peut comprendre de deux façons. Rav Mordechai Miller, il comprend d'une façon, moi, je pense un peu autrement, si jamais j'ai le droit. Lui, il explique que, à partir du moment où il n'est pas convaincu que toutes ses motivations, elles sont l'Ishem Shamaim. Si jamais il était venu, il avait dit, hey, tu sais pourquoi on s'en va et tout ça, parce qu'Akadol Boku, il a dit, c'est vrai, mais attends. Est-ce que tu n'en as pas marre d'être avec ce Racha Merusha depuis 20 ans, qui n'arrête pas de te voler, qui n'arrête pas de t'escroquer, qui n'arrête pas de te rouler dans la farine, de te faire toutes sortes de à l'intérieur de toi, tu as des motivations qui sont personnelles. La recherche du Emet constante, Titen Emet Léakov, qu'il a recherché toute sa vie, le Emet, cette vérité qu'il poursuivait de toutes ses forces, il n'a pas voulu dire la moindre parole qui n'était pas en phase et en adéquation totale avec le Emet. Qui me dit que toutes mes motivations, elles sont les Shem Shamaim pour que je puisse dire que la seule raison pour laquelle je vais faire ça, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu me l'a demandé. Non, je ne suis pas à ce niveau-là. Je pars parce que voilà, c'est parce que j'en ai marre d'être avec lui, parce qu'il m'a fait du mal, parce que j'ai de la haine contre lui, parce qu'il a fait toutes sortes de choses qui n'étaient pas en conformité, en adéquation avec la Lara. Et aussi je pars parce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas, Yaakov Avinu, se voiler la face et se faire croire qu'il est arrivé à des degrés, des madrigotes qui sont tellement élevés. On peut expliquer aussi que non, Yaakov Avinu le Olam, il a atteint la grandeur et la plénitude et la gdusha et la tara. Il sait exactement que ses motivations, et comme c'est marqué, sauf ma'aseh ve'marshava techila, comme on dit dans les Hadodi, la dernière chose, ça révèle les intentions premières. De la même façon, les paroles de Yaakov Avinu qui sont à la fin, elles révèlent ses véritables intentions premières. De la même façon pour les femmes, Rachel et Léa, elles révèlent toutes les dernières paroles qu'ils ont dites. C'est en fait ça le ikar de toute leur ta'ana, mais tout le reste c'est quelque chose qui est secondaire. Mais simplement, Yaakov Avinu, même s'il a atteint ce degré-là, il n'a pas besoin de l'étaler aux yeux au-dessus de tous. Il dit les choses, voilà, que les gens y croient que parce que aussi c'est mes intérêts personnels. J'ai pas besoin qu'on sache et que je fasse la publicité de ma kedusha, de ma tara, de ma irat shamaim. En fait, de la même façon, Rachel et Léa, de la même façon, elles lui disent, oui, notre père nous a déshérités et il nous a vendus et il nous a pris tous nos biens. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il a dit, donc puisque Akadosh Baruch Hu, en fait, elles aussi, bien sûr qu'elles font la chose. Et même si jamais ils étaient dans la meilleure situation et qu'on avait respecté leur volonté et qu'on les avait enrichis là-bas, si Akadosh Baruch Hu il a dit, on le fait, mais simplement c'est cette pudeur extraordinaire. Vatzne alechet imashem elokecha, cache-toi. Cache-toi de ta gdusha, cache-toi de ta tara, cache-toi de ta tzidkout. On doit être sadik, kadosh et tahor. Dans un second temps, on devra se cacher de notre tzidkout, de notre gdusha, de notre tara. Mais il ne faut pas oublier la matara. C'est ce qui explique Rav Simcha Zissel dans Chochma ou Moussar. Rav Simcha Zissel, c'était le sabbat de Kelem. C'était un très très grand sadik. Et ce de là, on a parlé beaucoup de lui ce soir. Il explique Rav Simcha Zissel que quand on a quelque chose de précieux et de cher, il faut le cacher. C'est la même chose pour la tzniut, pour la pudeur. La beauté de quelqu'un, on doit la cacher au maximum. Quand on a quelque chose qui est précieux, on ne l'utilise pas à tort et à travers. On ne l'utilise pas à tout va, on le met dans un écrin. De la même façon pour la beauté d'une femme, c'est quelque chose qui doit se cacher. De la même façon pour toute la Yirat Shamaim, c'est la chose la plus précieuse, il dit Rav Simcha Zissel. C'est quelque chose qu'on ne doit pas mettre en avant. La publicité et le fait de se mettre en avant, et le fait de montrer notre modestie, le fait de montrer notre Yirat Shamaim, ça c'est ce qui mécalquelle les gamrés. Parce que ce qui tue justement cette Yirat Shamaim, c'est la gava. Donc cette humilité, c'est quoi l'humilité? C'est d'arriver à rester dans la discrétion. Ne fais pas le tzaddik, reste dans ton coin. Personne n'a besoin de penser que tu es le tzaddik et sodola, mais le kadosh de la génération reste. C'est un kadosh beaucoup. Lui, c'est notre niveau. Ou yodéa edze. C'est un yesod pour toute la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il faut être méritant, comme il dit Rav Simcha Zissel, de faire en sorte d'arriver à ressentir ça et vivre avec cet axiome. Et là, à ce moment-là, cet avoda, l'Elechem Shamaim, et toute la construction qui est la construction de l'intériorité. Vous savez, il y a beaucoup de gens, malheureusement, parfois, qui se construisent de façon extérieure et qui ont une image à l'extérieur des gens, mais à l'intérieur, ils ne sont pas taureaux et barreaux. Et une des questions qu'on nous pose quand on arrivera dans le ciel, c'est la deuxième question ou la première d'après les Gemarot. Il y a une stira dans les Gemarot. Il y en a qui disent que est-ce que on a fixé un temps d'étude immuable à la Torah. Et une deuxième question, c'est est-ce que tu as été le même à l'intérieur qu'à l'extérieur? Est-ce que tu t'es comporté avec? Est-ce que tu t'es comporté avec honnêteté et avec intégrité dans tes affaires? C'est les deux questions qu'on va nous poser. Aïmaïta Toro Kebaro, l'image que tu montrais à tous les gens qui te considéraient comme un sadique, est-ce que c'était la même que tu avais à l'intérieur et la même que tu étais à l'extérieur? Et j'avais expliqué Bessia Tadish Maya une fois que. Pourquoi c'est ces deux questions-là qui vont être posées à l'homme? Parce qu'il y a Gemara dans Baba Batra qui dit que. Il y a un rave qui est monté dans le ciel et ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as vu dans le ciel? Ils lui ont dit, j'ai vu un monde qui était inversé. Il a dit, j'ai vu que ceux qui étaient en haut, ils étaient en bas, et ceux qui étaient en bas, ils étaient en haut. Ilionim le matav, atartonim le mala. Il a dit, et j'ai entendu là-bas la phrase qui est à l'entrée du Gan Eden, Ashre Misheba Lekan Betalmudo Beyado. Heureux l'homme qui arrive dans le ciel avec le Talmud dans sa main. Sur ça, Rabbeinu Hananel, il demande une question. Il demande, c'est quoi Betalmudo Beyado? Tu viens là-bas avec le Talmud dans ta main, tu prends la caisse de livres et tu la mets sous ton bras. Ashremi Shebalekan Betalmudo Berosho, Belibo, dans ta tête tu viens avec la Torah, dans ton cœur, mais qu'est-ce que ça veut dire que tu viens avec la Torah dans ta main? Regardez ce qu'il explique Rabbeinu Hananel sur place, et mon maître Rav Emmanuel Toledano Sheikhie qui m'avait dit ce chidush extraordinaire. Encore une fois, l'Ibad Ilcheta, c'est dans la vie de tous les jours. Les chidushim de la Torah, Rabotai, c'est la Torah, c'est la chaîne Ora'a. C'est pas des histoires et des histoires de grand-mère et des choses qu'on est en train de faire des sorcelleries. C'est des choses qui nous montrent comment on doit se comporter toute la vie. C'est les chemins dans lesquels on doit marcher. Ashremi Shebalekan Betalmudo Beyado, ça veut dire quoi, Moraï Verabotai? Heureux l'homme qui arrive dans le ciel et que par les actions de sa main, ça vérifie toute la Torah qu'il a étudiée. Talmud Obeyado, ça veut dire que tu vois tout son Talmud, toute l'étude qu'il a par les Masiya Daim, par toutes les actions qu'il a accomplies, par toute la conduite qu'il a eue. Heureux l'homme qui arrive dans le ciel avec le Talmud dans sa main. Pas qu'il a que le Talmud dans sa tête ou dans son cœur, mais dans les actions, tu vois que quelqu'un qui est digne de faire des actions aussi extraordinaires, c'est qu'il a étudié les halakhot, qu'il a étudié la Torah, qu'il a fait en sorte que de faire corps avec la Torah. Et avec ça, mes chers amis, il répond aux deux questions. On a dit, c'est quoi les deux questions? Est-ce que tu as fixé un temps d'étude immuable à la Torah? Est-ce que tu as été le même à l'intérieur qu'à l'extérieur? C'est quoi le même à l'intérieur qu'à l'extérieur, un temps d'étude? C'est ça, Shrei Mishé Balekan de Talmud Obeyad. Parce que c'est pas le tout d'arriver à avoir la Torah à l'intérieur de toi. Ça, c'est est-ce que tu as fixé un temps d'étude immuable? Oui, j'ai fixé. Mais est-ce que tu es le même à l'intérieur qu'à l'extérieur? C'est ça, Shrei Mishé Balekan de Talmud Obeyad. Que les actions, elles montrent à la fois que le type il a étudié et à la fois qu'il était le même que la Torah qu'il a étudié. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je dis, je suis ivre de joie avec ces choses-là. C'est merveilleux. Avodai, qu'on est le Sroud Bedrat Hashem. De se renforcer, d'arriver à marcher avec cette Torah qui nous guidera, qui nous éclairera, et de faire en sorte d'arriver à marcher humblement et discrètement. Parce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur l'extérieur et le fait de porter des habits ostensibles, ostentatoires, et voilà, on croit que toute la Torah c'est le fait de s'habiller. C'est sûr que ça passe aussi par s'habiller, mais c'est justement une avoda de la pnimiut, de l'intériorité. Il ne faut pas oublier cette chose-là, c'est ça des Heretz Kadma, la Torah, la construction de l'intériorité. On doit faire très attention à elle, on doit faire attention que cette construction, et comment elle peut être décimée et déracinée, c'est si jamais justement on fait en sorte de faire entrer l'orgueil. Quand est-ce qu'on fait entrer l'orgueil? C'est quand on montre les degrés et le niveau qu'on a voulu atteindre, et les choses qu'on a, et la grandeur qu'on a, et la Yirat Shamayim qu'on a. Plus on cache cette chose-là, plus ça reste à l'intérieur de nous, et plus ça c'est quelque chose qui est honnête et intègre, et la construction elle est durable. Et à ce moment-là, quand tu te trouves grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça, toute ta avoda, ça montre que c'est l'ishma, c'est pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et là, ça s'appelle qu'on est un Eved Hashem Amiti, et Akadosh Baruch Hu, quand on lui parle, il nous répond. Alors Bezrat Hashem, qu'on ait le souhait d'être des serviteurs d'Hashem qui soient Amitim, et qu'Akadosh Baruch Hu, par le mérite qu'il voit. C'est marqué que la génération, on ne reçoit pas le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'on est des Batlanim dans la Torah. Comme ça, c'est marqué. Le Rahaïm HaKadosh, il dit que le dernier exil, c'est l'exil de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme de la Torah. Et pourquoi on ne reçoit pas la Torah? Parce qu'on est une génération de Batlanim. On n'a pas assez étudié la Torah. Avec qui va parler le Mashiach quand il va arriver? La montagne, si jamais on travaille pour étudier la Torah de façon honnête et intègre, que ce ne soit pas quelque chose qui soit externe, mais quelque chose qui soit intègre et qu'on l'intègre à l'intérieur de nous, alors Bezrat Hashem, par ce mérite, on ramènera le Mashiach.